Chapitre 13. Défi. Voici les règles que doivent observer ceux qui tracent les cartes. Une carte terrestre doit être dessinée sur la peau d'un animal terrestre et ne montrer que le moins de mer possible. Maritime, elle ne peut être exécutée que sur la peau d'une créature marine, et bien qu'il faille y porter les côtes, c'est péché d'indiquer les particularités de la terre sur une carte consacrée à la mer. Agir autrement est une offense au Dieu qui a créé le monde tel qu'il est. Nos îles sont telles que le Dieu les a créées. Il a ainsi écrit sur les mers dans les temps anciens. Elles sont ses runes. Aussi, lorsqu'on les porte sur la carte des grands océans, il faut se servir du sang d'un animal terrestre en guise d'encre. Et si l'on veut noter un bon mouillage, une abondance de poissons, des hauts fonds invisibles ou d'autres traits propres aux mers, il faut employer le sang d'une créature marine pour marquer ses points. Car c'est ainsi que le Dieu a fait le monde, et nul ne peut tenter de le représenter autrement. Nos îles sont les runes du Dieu. Toutes ne nous sont pas compréhensibles, car nous ne sommes que des hommes, et il ne nous est pas donné de connaître toutes les runes que le Dieu peut écrire, ni ce qu'il a inscrit sur la face de la mer. Il recouvre certaines îles de glace, et nous devons respecter cela. Il faut donc dessiner la rune ainsi enveloppée, et cela avec le sang d'une créature de glace, mais qui ne vole pas. Le sang d'un phoque convient. Celui d'un ours blanc est idéal. Si l'on souhaite exécuter une carte du ciel, l'heure est alors à utiliser le sang d'un oiseau et de dessiner avec légèreté sur la peau d'une mouette. Ce sont là des lois très anciennes. Toute femme née d'une mère digne de ce nom les connaît. Si je les couche sur le papier, c'est uniquement parce que les fils de nos fils et leurs rejetons sont devenus stupides et ne prêtent plus garde à la volonté du Dieu. À cause d'eux, le désastre s'abattra sur nous si nous ne leur rappelons pas qu'ils doivent nous écouter et que nous tenons ces lois de la bouche même du Dieu. La formation des guides. Traduction d'un manuscrit outrilien par Humbre Tombe Étoile. J'étais heureux de me trouver en meilleurs termes avec Gina. Nous ne nous approchâmes pas de son lit ce soir-là, et je ne la quittais pas sur un baiser, mais je m'en sentis l'esprit alléger, malgré les protestations de mon corps. En sortant de chez elle, je me promis de traiter notre amitié raccommodée avec délicatesse et de la maintenir dans des limites où je maîtriserais la situation. Gina vit encore de la méfiance dans cette attitude, je pense, mais je suis ainsi fait. Du moins, c'est ce qu'Imbre m'a souvent dit. Suivirent 3 jours éprouvants pour moi. Le reste de mon existence demeurait instable. Je n'avais aucune nouvelle de Heur, et j'imaginais avec angoisse mon garçon dormant Eda savait où dans la neige, tout en me répétant avec agacement qu'il n'était pas bête à ce point. La reine et Imbre se réunissaient quotidiennement avec les représentants des 6 duchés pour discuter longuement de la proposition d'alliance de Terrilleville. Ils ne m'invitaient pas à partager leurs réflexions. Les ambassadeurs du Sud ne faisaient rien pour passer inaperçus au château et menaient auprès de tous les ducs et duchesses une cour assidue accompagnée de présents et d'attentions diverses. Kétriken enchaînait banquets et divertissements en s'efforçant d'apaiser les Outriliens tout en restant gracieuse avec nos hôtes Terrilleviliens. Le succès de ces soirées était mélangé. Assez curieusement, Archon s'engrippait et ses marchands paraissaient irrésistiblement attirés par les gens de Terrilleville, et ils parlaient avec eux, sans se dissimuler, de former des alliances commerciales fondées sur les fiançailles du prince de Voir et de leur Narcheska. Toutefois, Eliania et Péotre Onde Noire s'abstenaient le plus souvent de participer à ces festivités. Et lors des rares occasions où la jeune fille faisait une apparition, elle se montrait grave et taciturne. L'oncle et la nièce s'appliquaient à éviter par tous les moyens les marchands de Terrilleville, et la Narcheska manifestait une aversion marquée pour le jeune garçon au visage écailleux, Selden Vestrit, des marchands du désert des pluies. Je la vis même une fois avoir un mouvement de recul lorsqu'il passa près d'elle. Cependant, je me demandais si cette réaction avait vraiment un rapport avec la proximité de l'enfant, car elle resta ensuite assise très raide sur sa chaise, tandis que des gouttes de sueur se formaient sur son front. Peu après, Péotre se retira avec elle au beau milieu d'un spectacle de marionnettes en donnant comme excuse qu'elle était fatiguée et que lui-même devait préparer leur bagage. C'était une façon à peine voilée de nous rappeler le départ imminent de la délégation outrilienne. Les marchands de Terrilleville n'auraient guère pu choisir pire moment pour nous soumettre leurs propositions. Une semaine plus tard, et les Outréliens seraient partis à leur arrivée. En outre, nous aurions certainement réussi à réparer le petit faux pas du prince à l'égard de la Narcheska, et elle serait rentrée chez elle satisfaite. Mais aujourd'hui, nous avons l'air d'ajouter notre refus de rompre les discussions avec Thérilleville à l'affront de devoir envers Eliania. Nous apparaissons comme des interlocuteurs douteux. Ambre me fit ce résumé d'un ton bougon, un soir, devant un verre de vin. Une des raisons de sa mauvaise humeur était qu'Astérie avait voulu lui remettre un message pour moi. Elle l'avait abordé en privé, mais le vieil assassin jugeait tout à fait inconsidéré qu'elle déclare ainsi ouvertement être au courant de la relation entre lui et moi, et, j'ignore pourquoi, il m'en rendait responsable. Il avait refusé sa requête, et elle avait alors dit « Dans ce cas, faites-lui part de mes excuses. Je m'étais disputé avec mon époux et j'avais besoin d'un ami. J'avais commencé à boire au château avant de descendre en ville terminée de me saouler. Je n'aurais pas dû lui tenir de pareils propos, je m'en rends compte. » Profitant de ce que je restais bouche bée, il me demanda avec délicatesse si j'avais un quelconque « arrangement » avec Astérie. Furieux, je rétorquais que, même si cela était, cela ne regarderait qu'elle et moi, et qu'il n'y avait de toute façon rien entre nous. Il me prit alors par surprise, en répondant que seul un imbécile voudrait provoquer la colère d'une ménestrelle. « Mais je ne l'ai pas provoqué. Tout provient de ce que je lui interdis mon lit depuis que j'ai appris qu'elle était mariée. Il me semble avoir quand même le droit de décider avec qui je couche, non ?» Je m'attendais à le voir stupéfait de cette révélation. Peut-être même éprouverait-il assez de gêne pour ne plus avoir envie de fourrer son nez dans mes affaires personnelles. Mais non, il se frappa seulement le front.
« Évidemment, te connaissant, il était naturel, dans ces conditions, que tu la chasses de tes draps. Mais, Fitz, te rends-tu compte de ce que tu représentes pour elle? Réfléchis. »
Je me serais senti offensé par sa question s'il n'avait pas pris son air de professeur que je connaissais bien, et je ne pus y voir que le prélude à une leçon. Il s'adressait souvent à moi de cette façon, quand il s'efforçait de m'enseigner à discerner toutes les motivations possibles d'un acte au lieu de m'arrêter aux premières qui me sautaient aux yeux.
Elle est humiliée parce qu'elle a baissé dans mon estime quand j'ai découvert qu'elle couchait avec moi tout en étant mariée.
Non, réfléchis, mon garçon. A-t-elle vraiment baissé dans ton estime?
À contre-cœur, je secouais la tête. Non, je me suis seulement trouvé d'une bêtise rare. D'une certaine façon, je n'ai même pas été étonné, Ambre. Astérie s'est toujours donné ce genre de droit, et je le sais depuis que je la connais. Je n'espérais pas qu'elle modifierait ses habitudes de ménestrel, mais je ne voulais pas m'en faire le complice. Il soupira.
Fitz, Fitz, ton plus grand défaut est ton incapacité à imaginer qu'on puisse avoir sur toi un regard différent du tien. Qu'es-tu? Qui es-tu pour Astérie?
Je haussai les épaules. Fitz, le bâtard, un homme qu'elle connaît depuis 15 ans. Un mince sourire joua sur ses lèvres, et il répondit à mi-voix.
Non! Tu es Fitz Chevalerie Loinvoyant, le prince caché. Elle avait composé une ballade sur toi avant même de te rencontrer. Pourquoi? Parce que tu enflammais son imagination, le bâtard Loinvoyant. Si Chevalerie t'avait reconnu, tu aurais eu une chance d'accéder au trône. Renié, rejeté par ton père, tu es pourtant resté fidèle. Tu es devenu le héros de la bataille de l'île de l'Andouillé. Tu es mort ignominieusement dans les cachots de Royal et ressuscité tel un spectre vengeur pour tourmenter l'usurpateur durant tout son règne. Elle t'a suivi dans ta quête pour sauver ton roi. Et même si ta mission ne s'est pas terminée comme on l'espérait, le triomphe était tout de même au bout de la route. Et elle n'en a pas été seulement témoin, mais elle y a pris part.
L'histoire paraît en effet très belle. Ainsi présentée sans la grâce, la souffrance ni les malheurs.
Elle reste belle, même avec la grâce, la souffrance et les malheurs. Une belle et glorieuse histoire qui assiérait définitivement la réputation d'une ménestrelle si elle pouvait la chanter. Malheureusement, c'est impossible, car on le lui a interdit. Sa grande aventure, sa merveilleuse ballade, enfermée à double tour, jetée dans un cul de basse-fosse. Toutefois, elle y a quand même participé, et elle a partagé la vie du bâtard royal. Elle est devenue sa maîtresse et fait désormais partie de ses secrets. Elle espérait, je suppose, que lorsque tu reviendrais à Castelcerf, tu te trouverais encore une fois au centre d'intrigues et d'événements extraordinaires, et elle pensait y jouer aussi un rôle, devenir célèbre et profiter de la gloire qui rejaillirait de tes actions. La ménestrelle maîtresse du bâtard au vif, la femme qui partageait ses aventures et son lit, celle qui connaissait ses joies et ses souffrances. Si elle ne pouvait pas chanter elle-même sa ballade, elle était au moins assurée d'avoir une place dans l'épopée si un jour elle devait être racontée. Et tu peux être sûr qu'elle l'a déjà écrite sous forme de chanson ou de lait. Elle se voyait comme un des principaux personnages de ton histoire, grandi par ta gloire échevelée, et brusquement, tu la dépouilles de tout, tu les conduis. Puis tu reviens à Castelcerf sous le déguisement déshonorant d'un domestique. Non seulement tu achèves ton histoire sur une note décevante, mais tu prives du même coup Astérie de toute importance. C'est une ménestrelle, Fitz. Comment croyais-tu qu'elle allait réagir? Gracieusement.
Astérie m'apparaissait à présent sous un autre jour. Ses propos cruels à l'égard de Heur, son ton insultant avec moi. Mais je ne me vois pas ainsi, Imbre.
« Je le sais bien, » répondit-il avec douceur, « mais comprends-tu maintenant qu'elle a pu avoir de toi cette vision et que tu as fracassé ses rêves ?»
Je hochai lentement la tête. « Mais je n'y peux rien. Je refuse de laisser entrer dans mon lit une femme mariée, et il m'est impossible de me présenter sous l'identité de Fitz Chevalerie loin-voyant. Ce serait me passer moi-même le nœud coulant autour du cou. »
C'est très probablement exact. Tu as raison, tu ne peux plus revenir sous le nom de Fitz Chevalerie. Quant au reste, ma foi, permets-moi de te rappeler qu'Astérie est au courant de nombreux secrets. Nous sommes en position vulnérable vis-à-vis d'elle. Je compte donc sur toi pour que nous restions dans ses faveurs.
Et sans me laisser le temps de répondre, il me demanda pourquoi j'avais annulé toutes les leçons d'art du prince pendant le séjour des ambassadeurs de Terrilleville. Devoir m'avait posé la même question, et je donnais à Imbre la même réponse. Je craignais que le garçon au visage écailleux ne possédât une certaine sensibilité à l'art. Aussi, en attendant le départ des marchands, nous limiterions-nous à traduire ensemble des manuscrits. Des études aussi terre-à-terre mettaient à rude épreuve la patience du prince, et mes soupçons à l'égard du marchand voilé l'intriguaient autant qu'Imbre. Par trois fois, le vieil assassin m'avait obligé à lui répéter ma conversation avec celle d'Envestrit, et nous n'y avions pas trouvé la moindre substance. Je commençais à m'apercevoir que, pour me simplifier la vie, il valait parfois mieux ne rien dire à Imbre que lui fournir des bribes de renseignements qu'il lui était impossible de confirmer, comme dans le cas des tatouages de la Narcesca. Je sais qu'il passa quelques heures l'œil rivé au trou d'observation sans les apercevoir. Comme elle ne se plaignait pas de sa santé, il ne pouvait envoyer le guérisseur dans ses appartements vérifier ce que je prétendais avoir vu. Elle avait catégoriquement refusé à plusieurs reprises de sortir à cheval ou de participer à des jeux en compagnie du prince, si bien qu'il était impossible à devoir de savoir si elle paraissait souffrir. Quant à la reine, elle n'osait pas lui lancer d'invitations trop fréquentes et trop pressantes, de peur que les six duchés n'aient l'air de désirer davantage que les îles d'outre-mer consolident les fiançailles. Ainsi, j'étais le seul à avoir observé ces tatouages, qui nous laissaient aussi perplexes que l'attitude de la servante de la Narcesca, Enya. Cette femme demeurait une énigme, et ses allusions à une dame indéchiffrable, à moins qu'elle ne désignât ainsi une doyenne de la famille dotée d'autorité sur Eliania. Mais de discrètes enquêtes sur ce sujet ne nous apprirent rien. Les espions d'Imbre n'avaient pas plus de succès. Par deux fois, ils l'avaient suivie à Bourg de Castelcerf, et par deux fois, elle avait échappé à leur vigilance, d'abord dans la foule d'un marché, ensuite en passant simplement le coin d'une rue. Nous ignorions qui elle allait voir, et même si cela était important ou non. La mystérieuse punition des tatouages qui infligeaient d'insupportables brûlures à la Narcesca laissait entrevoir l'existence d'une magie dont nous ne savions rien. Nous aurions peut-être dû nous réjouir qu'une influence occulte veuille forcer la jeune fille à resserrer encore les liens de ses fiançailles avec le prince, mais son obscure cruauté ne laissait pas de nous inquiéter.
« Tu es sûr que Sire Doré ne pourrait pas nous éclairer ?» me demanda brusquement Imbre. « Je me rappelle l'avoir entendu dire un soir, lors d'un dîner, qu'un de ses passe-temps favoris était l'étude de l'histoire et de la culture outridienne.
J'eus un haussement d'épaule éloquent. Humbre grogna.
« Lui as-tu déjà posé la question ?»«
Non, » répondis-je. Je voulus me taire, mais en le voyant froncer les sourcils, je repris. « Je vous l'ai dit, il est alité et ne sort pratiquement pas, même pour ses repas qu'il se fait apporter. Ses rideaux restent tirés devant ses fenêtres et autour de son lit.
« Mais tu ne le crois pas malade ?»«
Il ne s'est pas dit souffrant, mais c'est l'impression qu'il laisse répandre par son page. » Je songe quelquefois que c'est en partie pour cela qu'il a embauché Calcin. Pour propager les rumeurs qu'il souhaite faire circuler. La vérité, à mon avis, c'est qu'il préfère éviter toute apparition publique tant que les représentants de Terrilleville demeurent à Castelserre. Il a vécu dans leur cité pendant quelque temps, mais pas sous l'identité du fou, ni de Sire Doré, je pense. Et il doit craindre des difficultés si on le reconnaît.
Ah! Si c'est le cas, son attitude est en effet raisonnable, mais moi, elle ne m'arrange pas du tout. Écoute, Fitz, ne peux-tu aller lui parler, tout simplement, lui demander son opinion sur la possibilité que Selden Vestrit sache artiser.
Comme il ne possède pas l'art, je ne vois pas comment il aurait détecté son aura chez Vestrit. Humbre reposa sa coupe.
Mais tu ne lui as pas posé la question, n'est-ce pas?
Je pris mon vin et le but à petite gorgée pour gagner quelques instants. « Non, » dis-je, quand j'eus fini, « je ne lui ai pas posé la question. » Il se pencha vers moi, m'observa de près, puis déclara stupéfait.
« Vous êtes brouillés tous les deux, c'est cela ?»«
Je préfère ne pas en parler, » répondis-je d'un ton guindé.
« Bravo ! On peut dire que tout le monde choisit bien son moment. » Les marchands de Terrilleville viennent s'empêtrer avec les Outréliens, tu réussis à te mettre à dos la ménestrelle favorite de la reine, et pour couronner le tout, le fou et toi, vous prenez d'une querelle ridicule qui vous rend totalement inefficace l'un et l'autre. »
Il se laissa aller contre le dossier de son fauteuil d'un air mécontent, comme si nous cherchions uniquement à le contrarier. « Je doute qu'il ait des lumières sur le sujet, » répondis-je. Ma rancœur m'avait empêché d'adresser plus de 10 mots au fou au cours des 3 jours passés, mais je ne tenais pas à le dire à Humbre. Le fou, s'il avait remarqué ma froideur, n'en avait rien montré. Il avait donné l'ordre à Tom Blaireau d'interdire les visites jusqu'à ce qu'il se sente remis, et j'avais obéi. Je passais le moins de temps possible dans nos appartements communs. Néanmoins, à plusieurs reprises, en regagnant ma chambre, j'avais observé à de petits détails que quelqu'un était entré pendant mon absence, et il ne s'agissait pas de Calcin, dont je connaissais la façon de faire le ménage. Jack allait et venait donc chez le fou quand j'avais le dos tourné, car c'était son parfum épicé que je sentais dans le salon aux rideaux tirés.
« Tu as peut-être raison. »
Humbre me lança un regard noir.
« En tout cas, j'ignore la raison de votre dispute, mais tu as intérêt à la régler au plus vite. » Tu ne vaux pas une breloque quand tu es dans cet état-là. »
Je respirai profondément afin de garder mon calme. Ce n'est pas le seul souci qui me ronge ces derniers temps, dis-je pour m'excuser.
En effet, nous avons tous trop de sujets de préoccupation. Que voulait ton fils l'autre jour quand il s'est présenté au château? Tout va bien pour lui.
Pas vraiment. Je me rappelais mon effarement quand un marmiton avait frappé à ma porte pour m'annoncer qu'un jeune homme me demandait dans la cour des cuisines. Je m'étais précipité pour trouver Heur dehors, l'air à la fois en colère et penaud. Il n'avait pas accepté d'entrer, même dans la salle des gardes, malgré mon assurance que nul ne s'en formaliserait. On avait pris l'habitude de m'y voir depuis quelque temps. Il ne voulait pas me retenir trop longtemps, car il savait que j'avais du travail. À cette réflexion, j'avais commencé à me sentir coupable, car j'avais été occupé les jours précédents, souvent trop pour aller le voir, alors que je savais que c'était nécessaire. Et quand il trouva enfin le courage de m'apprendre que Gina l'avait mise à la porte, et pour quelle raison, la fermeté dont j'avais résolu de faire preuve vacillait déjà. Le regard perdu au-dessus de mon épaule dans le ciel qui se couvrait, il avait déclaré « Donc, sans le sou, j'ai dormi les 2 dernières nuits dans des abris de fortune, mais je ne peux pas continuer ainsi tout l'hiver. Je n'ai pas d'autre solution que de m'installer à la pension des apprentis. Seulement, je suis très gêné de demander à Maître Guindast de m'héberger alors que je refuse toujours quand il me le propose. »
Voilà qui était nouveau pour moi. « Il te le propose ? Pourquoi ?
Ne pas avoir à te nourrir doit pourtant lui économiser pas mal d'argent. » Or s'était tortillé d'un air embarrassé, puis il s'était jeté à l'eau. « Il m'en parle chaque fois que je travaille mal. Il dit que si je dormais convenablement, si je me levais en même temps que les autres, si j'étais à l'heure au travail et au lit, j'obtiendrais de meilleurs résultats. » Il avait détourné les yeux, puis ajouté avec une fierté hargneuse. « Il affirme que je serais capable de mieux, de beaucoup mieux. Il s'en rend compte. Si je me présentais moins fatigué le matin, mais je lui réponds toujours que je suis en mesure de tenir mes horaires. Et c'est ce que je fais. Bien sûr, il m'est arrivé d'être en retard, une fois ou deux, mais je n'ai pas manqué une seule journée depuis que j'habite à Bourg-de-Castelserre, je te le jure. » Au ton qu'il avait employé, on aurait cru qu'il craignait que j'en doute. Je ne lui avais pas dit que je m'étais demandé, en effet, s'il respectait toujours les heures imposées par son maître. Je m'étais tué un moment. « Eh bien, qu'est-ce qui te chagrine ? Puisqu'il t'a proposé plusieurs fois de te loger, il me semble qu'il devrait être content de te voir accepter, non ?» Heur avait gardé le silence, mais ses oreilles avaient rossi. J'avais attendu qu'il se décide à répondre, et il avait fini par en trouver le courage. « Est-ce que, par hasard, tu ne pourrais pas aller le voir et lui dire qu'après réflexion tu juges que c'est le mieux pour moi ? Ça me paraît plus simple comme ça, moins gênant. » D'une voix lente, j'avais répondu en me demandant si je ne commettais pas une erreur. « Moins gênant que donner l'impression que tu acceptes sa proposition contraint et forcée, peut-être, ou que te faire jeter dehors par Gina parce qu'elle ne veut pas d'ennui. » Heure était devenue cramoisie, et j'avais su que j'avais tapé juste. Il avait commencé à se détourner, mais j'avais posé ma main sur son épaule, et quand il avait voulu s'écarter, j'avais resserré ma prise. Il avait eu l'air surpris en constatant qu'il ne parvenait pas à se libérer. Ainsi, mes exercices quotidiens de maniement d'armes donnaient des résultats. J'étais capable de retenir un adolescent malgré ses contorsions. Bel exploit ! J'avais attendu qu'il cesse de se débattre. Il n'avait pas tenté de me frapper, mais il ne s'était pas non plus retourné vers moi. À mi-voix, afin de n'être pas entendu par ceux qui s'étaient arrêtés, pour observer notre petite épreuve de force, j'avais dit « Affronte-toi-même, Guindaste, fiston. En laissant croire que ton père t'a obligé à t'installer parmi eux, tu sauveras peut-être la face devant les autres apprentis, mais à long terme, Guindaste te respectera davantage si tu vas le trouver pour lui expliquer que tu as bien réfléchi et que tu juges plus sage de loger chez lui. N'oublie pas non plus la générosité de Gina envers toi, mais aussi à mon égard, une générosité qu'aucune somme d'argent ne peut rembourser, et bien au-delà de ce que nous méritons de sa part, toi et moi. Ne lui tiens pas rigueur d'avoir voulu éviter les ennuis. Récolter des soucis ne doit pas être le prix à payer pour notre amitié. » J'avais alors relâché ma poigne, et je l'avais laissé repousser ma main d'un haussement d'épaule, puis s'éloigner à grandes enjambées. J'ignorais quelle voie il avait choisi. Je n'étais pas allé voir ce qu'il devenait. Il devait seul mettre de l'ordre dans sa vie. Un toit et un couvert l'attendaient s'il décidait de les accepter selon les termes proposés. Je ne pouvais pas l'aider davantage. Non sans mal, je revins à ma conversation avec Imbre. Heur connaît des difficultés pour s'adapter à la vie citadine, confessai-je. À la chaumière, il avait l'habitude de travailler le temps qu'il voulait, du moment que les corvées étaient exécutées. L'existence était plus simple alors, moins routinière, et les choix qui s'offraient plus nombreux.
Avec moins de bière et de filles aussi, j'imagine, fit Imbre,
et je le soupçonnais alors d'en savoir plus qu'il ne voulait bien le dire, comme d'habitude. Mais le sourire qui accompagnait sa remarque me dissuada de me hérisser. Il ne cherchait pas à nous insulter, ni Heur ni moi, et surtout se mettait un soulagement de lui voir l'esprit aussi vif que toujours. Apparemment, plus la situation devenait complexe à Castelserre, mieux il se portait.
Enfin, tu sais, j'espère que si ton Heur se fourre dans les tracas, tu peux me demander mon aide, si nécessaire, sans contrepartie.
Je le sais, oui, répondis-je d'un ton un peu brusque, et nous nous séparâmes. Il fallait que nous nous préparions pour l'après-midi. Imbre devait revêtir une tenue appropriée pour la cérémonie officielle d'adieu aux Outriliens. Il se raccrochait à l'ultime espoir que les civilités et les présents de la soirée qui suivraient refermeraient les lézardes et les fractures, et que nos hôtes partiraient au matin en ayant confirmé les fiançailles. Pour ma part, je devais réunir mon matériel, me rendre à mon poste d'observation secret et noter tous les détails qui pouvaient échapper à l'attention d'Imbre. Il descendit s'apprêter dans ses appartements. Mes préparatifs furent très différents des siens. Je me constituai une réserve de bougies, pris un oreiller de son lit, une couverture, une bouteille de vin et quelques victuailles. J'allais sans doute passer plusieurs heures accroupi dans ma cachette, et j'entendais cette fois me mettre à mon aise. L'hiver avait resserré son étreinte sur le château durant les derniers jours, et les passages secrets étaient glacés et inhospitaliers. Je fis un paquet de mes affaires, dont je dus écarter Girofle à plusieurs reprises. Le furet me manifestait une grande amitié depuis peu. Il me saluait en frissonnant des moustaches et en me reniflant chaque fois que nous nous croisions dans les couloirs dissimulés. Malgré le plaisir qu'il prenait à chasser et les nombreux trophées qu'il laissait un peu partout comme preuve de ses prouesses, il m'étonnait souvent en venant mendier des raisins secs ou de petits morceaux de pain que, plutôt que de les manger, il paraissait préférer cacher derrière le casier à manuscrits ou sous les fauteuils. Son esprit filait en tous sens comme un oiseau-mouche, curieux et toujours en éveil. Comme la plupart des animaux, se lier à un homme ne l'intéressait nullement. Nos vifs s'effleuraient souvent, mais ne se mêlaient jamais. Il portait toutefois une attention amicale à mes activités, et ce jour-là, il me suivit avec intérêt par les étroits passages des murs du château. J'arrivais amplement à l'heure pour assister au banquet d'adieu. Je posais mon oreiller sur un tabouret bancal dont je m'étais muni en cours de route, mes vivres à côté de moi sur le sol poussiéreux et mes bougies, dont celles qui m'éclairaient, un peu plus loin. Je m'assis, m'en mitouflai dans la couverture et me penchai vers le trou d'observation. Je constatai avec plaisir qu'il offrait une bonne vue sur l'estrade et près d'un tiers de la salle. La décoration d'hiver de la grande salle avait fait sa réapparition. Branches de sapin et guirlandes encadraient les portes et les cheminées, et les ménestrels jouaient en sourdine, tandis que les invités entraient et se rendaient à leur place. L'ensemble me rappelait la cérémonie de fiançailles vue sous un angle différent. Des nappes brodées recouvraient les longues tables sur lesquelles du pain, des confitures et du vin attendaient les hôtes, et de l'encens du sud, cadeau des marchands de Terrilleville, parfumait l'air. Cette fois, l'entrée des ducs et des duchesses se déroula de façon moins pompeuse. Même la noblesse devait commencer à se lasser des fêtes et des apparats. J'observais avec intérêt que la délégation terrilvillienne se présenta en même temps que l'aristocratie mineure et se trouva installée loin de l'estrade réservée aux Outriliens. La distance suffirait-elle à empêcher les frictions? Je n'en étais pas sûr. Le groupe d'Arconnes s'engrépait, du moins est-ce ainsi que je le désignais, entra ensuite. Hommes et femmes paraissaient d'excellente humeur et arboraient encore une fois leurs extravagantes adaptations de la mode de Castelserre. Les épaisses fourrures avaient été remplacées par du satin et du velours, la dentelle moussait en abondance et les couleurs tendaient nettement vers le rouge et l'orange. Curieusement, ces atours n'avaient rien de ridicule sur eux. L'excès barbare qu'ils apportaient à nos tenues en faisait leur style propre. En outre, leur imitation de certaines de nos manières constituait pour moi l'indication que les portes s'ouvriraient bientôt largement à toutes sortes d'échanges commerciaux, à condition qu'Arconne s'engrépait ait son mot à dire. Eliania et Péâtre Onde Noire ne se trouvaient pas parmi eux. Et ils n'étaient toujours pas arrivés quand la reine et le prince s'avancèrent vers la haute estrade, Imbre derrière eux, l'air réservé. Je vis les yeux de Kétriken s'agrandir d'effroi, mais cela n'affecta pas son sourire. Le prince de Voir conserva un calme digne de son rang et parut ne pas s'apercevoir que sa fiancée n'avait pas jugé nécessaire de se présenter à la cérémonie qui devait saluer son départ. Lorsque les loin voyants eurent pris leur place, il s'ensuivit un petit flottement gêné. Normalement, la reine aurait fait signe aux domestiques de servir le vin et entamer un discours en l'honneur de ses hôtes. L'assistance commençait à murmurer quand Péâtre Onde Noire apparut à l'entrée de la salle. Comme toujours, il était vêtu à l'outrélienne de pelisse ornée de chaînes, mais on reconnaissait une tenue d'apparat à la somptuosité de ses fourrures et des bracelets d'or qui alourdissaient ses avant-bras. Il demeura sans bouger jusqu'à ce que le brouhaha des commentaires se fût tu. Alors il s'écarta de la porte, et la Narcheska entra. La tunique de cuir qu'elle portait était ornée de son narval emblématique en perles d'ivoire et bordée de fourrure blanche, du renard des neiges vraisemblablement. Une jupe et des pantoufles en peau de phoque complétaient sa mise. Ses mains et ses bras étaient vierges de tout bijou. Sa chevelure tombait librement dans son dos, comme un fleuve de nuit, et elle était coiffée d'un curieux ornement bleu qui rappelait une couronne. Cet objet éveilla en moi un souvenir que je ne parvins pas à préciser. Elle resta un moment encadrée dans la porte. Son regard croisa celui de Ketriken et ne le lâcha pas. La tête droite, elle traversa la salle à pas mesurés en direction de la haute estrade, Piotr onde noir derrière elle. Il la suivait d'assez loin pour ne pas détourner l'attention d'elle, mais, comme d'habitude, suffisamment près pour s'interposer en cas d'agression. Eliania ne quitta pas la reine des yeux de tout son trajet, et même quand elle gravit les marches, elle continua de la regarder. Lorsqu'enfin, elle se tint devant Ketriken, elle lui fit une révérence solennelle, mais ne courba pas la tête et ne détourna pas les yeux. « Je me réjouis que vous vous joigniez à nous », dit la reine à mi-voix d'un ton aimable, et sa sincérité n'était pas feinte. Je crus déceler une indécision fugitive dans l'expression de la Narcheska, mais sa résolution se raffermit aussitôt, et quand elle répondit, ce fut d'une voix, très jeune certes, mais claire et forte, en détachant nettement ses mots. Elle voulait que ses propos fussent entendus par tous. « Me voici, reine Ketriken des six duchés. Mais hélas, je commence à douter que je me joindrai jamais à vous en tant qu'épouse de votre fils. » Elle se retourna et parcourut lentement l'assemblée du regard. Son père se tenait très droit dans son fauteuil. Je supposais qu'il ne s'attendait pas aux paroles de sa fille et qu'il s'efforçait de dissimuler sa surprise. Le saisissement qu'avait d'abord affiché la reine avait cédé la place à une impassibilité froide et courtoise. Ces mots me déçoivent. Narcheska Eliania, onde noire des runes du dieu. Et elle se tut. Elle ne posa pas de questions, ne demanda nulle réponse. Je vis la jeune fille hésiter, chercher un moyen d'entamer le discours qu'elle avait préparé. Elle avait escompté sans doute que la reine réagirait plus vivement, exigerait une explication. Sans cette introduction, elle se trouvait contrainte d'adoucir son ton afin de se mettre au diapason de Ketriken et de ses regrets polis. « Ces fiançailles ne répondent pas à mes attentes, qui sont celles de la maison de ma mère. On m'avait dit que je viendrais ici promettre ma main à un roi, mais je la vois offerte à un enfant qui n'a statut que de prince, pas même de roi servant, comme vous nommez celui qui apprend les devoirs de sa couronne. Cela ne me satisfait pas. » Ketriken ne répliqua pas aussitôt. Elle laissa d'abord s'éteindre les échos de la déclaration de la jeune fille, puis quand elle parla, ce fut avec simplicité, comme si elle donnait des explications à une enfant peut-être trop jeune pour les comprendre. L'impression était celle d'une femme adulte et patiente s'adressant à une adolescente indisciplinée. « Il est dommage qu'on ne vous ait pas instruite de nos traditions dans ce domaine, Narcheska Eliania. Le prince devoir doit avoir au moins 17 ans avant d'accéder au titre de roi servant. C'est ensuite au duc de décider quand il peut coiffer la couronne de roi. Je ne pense pas qu'il attendra longtemps avant de mériter cette responsabilité. » Tout en parlant, elle avait levé le regard vers ses ducs et duchesses. Elle les honorait en reconnaissant l'importance de leur rôle, et ils y furent sensibles. La plupart acquiescèrent gravement de la tête à ses propos. C'était de la haute diplomatie. Eliania dut sentir que l'initiative lui échappait, car c'est d'une voix légèrement stridente et peut-être une seconde trop tôt qu'elle répartit. « Peu importe. Si j'accepte dès à présent mes fiançailles avec votre fils, nul ne peut nier que je cours le risque de lier mon sort à celui d'un prince qui pourrait fort ne jamais être déclaré roi. » Comme elle reprenait son souffle, Ketriken glissa calmement. « C'est très improbable, Narcheska Eliania. Presque comme si c'était le mien, je ressentais regimber l'amour-propre de devoir. C'était le tempérament d'un loin voyant qui se dissimulait sous sa paisible façade montagnarde, et le lien d'art qui nous unissait vibrait de sa colère croissante. « Du calme, laissez agir la reine. Je m'étais efforcé de resserrer le plus possible le faisceau de ma pensée.
« Je n'ai pas le choix, de toute façon, »
répondit-il sans faire preuve de la même prudence.
« Que cela me plaise ou non, c'est comme ce mariage arrangé que je dois accepter, bon gré, mal gré. »
Dans l'emportement de sa frustration, sa maîtrise de l'art était, non pas imparfaite, mais carrément inexistante. Je fis la grimace et me tournai vers le marchand de Terrilville voilé. Selden Vestrit se tenait très droit sur son siège, et peut-être son attitude attentive n'avait-elle d'autre origine que l'intérêt qu'il portait à l'échange entre la reine et la Narcheska, à l'instar de ses compagnons. Mais son immobilité absolue me donnait l'impression qu'il écoutait beaucoup plus largement avec tous les pores de sa peau. Il me faisait peur.
« Peu importe, » répéta Eliania.
Et cette fois, son accent déforma davantage les mots. Elle perdait son aplomb, je le voyais bien, et pourtant elle s'obstinait. Elle avait dû s'exercer à l'infini à réciter son discours dans ses appartements, mais à présent elle le débitait sans finesse, ni effet d'emphase. Ce n'était plus qu'une succession de mots, des cailloux qu'elle jetait à la figure de la reine, avec l'énergie du désespoir. Beaucoup, sans doute, croyaient qu'elle tentait d'échapper aux fiançailles. Je nourrissais pour ma part d'autres soupçons.
Si je dois accepter la légitimité de votre tradition et donner ma promesse de mariage à un prince qui ne deviendra peut-être jamais roi, il me paraît juste et naturel qu'en retour, je lui demande d'honorer une coutume de ma terre et de mon peuple.
Je ne pouvais observer les réactions de chacun dans la salle, aussi concentrais-je mon attention sur Harkon sans grépée. J'avais la certitude qu'il ne s'attendait pas du tout à la déclaration de sa fille, mais il parut se réjouir de la condition qu'elle imposait. Je songeais que c'était à l'évidence un homme qui aimait les défis et les paris, autant que les coups de théâtre. Rien de plus naturel, donc, qu'il la vit avec satisfaction donner des coups de pied dans la fourmilière afin d'examiner ce qui allait en sortir. Peut-être pourrait-il en tirer avantage. Plusieurs de ses compagnons, assis à ses côtés, paraissaient moins optimistes. Ils échangeaient des regards inquiets, redoutant manifestement que la hardiesse de la jeune fille ne mît en danger les fiançailles et leurs tractations commerciales. Le rouge avait commencé à monter aux joues du prince de voir. Par les yeux et par l'art tout à la fois, je percevais le combat qu'il menait pour conserver une attitude sereine. Ketriken, elle, gardait son calme presque sans effort.
« Cette requête est peut-être recevable ?»
dit-elle d'une voix posée. Et de nouveau, on eut l'impression qu'elle se prêtait aux caprices d'une enfant.
« Auriez-vous la bonté de nous exposer cette coutume ?»
La Narcheska Eliania parut se rendre compte que son attitude ne parlait pas en sa faveur. Elle redressa les épaules et prit le temps de respirer profondément avant de répondre.
« Chez moi, dans les ruines du dieu ?»
La tradition veut que, lorsqu'un homme désire épouser une femme et que les mères de cette femme doutent de la force du sang ou du caractère du prétendant, elle lui propose un défi, grâce auquel il peut prouver sa valeur. Et voilà. L'insulte était lancée. Assez clair pour qu'aucun duché n'eût reproché à la reine d'annuler aussitôt les fiançailles et l'alliance. Non, personne ne l'en eût blâmé. Mais, sur plus d'un visage, l'orgueil le disputait à la crainte d'éventuelles pertes de profit. Échangeant de discrets coups d'œil, duc et duchesse conférèrent entre eux, les traits immobiles, la bouche sans expression, et les lèvres remuant à peine. Mais avant même que la reine pût prendre son souffle pour formuler sa réponse, la Narcheska compléta sa déclaration.
« Seul devant vous, sans ma maison maternelle pour parler à ma place, je propose, de mon propre chef, un défi qui permettra au prince de prouver qu'il est digne de moi. »
J'avais connu Ketriken à l'époque où elle était encore la fille de l'Oblat des Montagnes, et non la reine des Six Duchés. Au temps où, d'adolescente, elle était devenue à la fois femme et souveraine. D'autres que moi l'avaient peut-être côtoyée plus longtemps, ou avaient vécu davantage d'années de son règne auprès d'elle, mais je pense que ma relation avec elle à l'époque me permettait de déchiffrer ses pensées comme nul à part moi n'en était capable. Et l'imperceptible crispation de ses lèvres me dit la profondeur de sa déception. Tous les mois qu'elle et ses conseillers avaient passé à se rapprocher lentement, laborieusement, d'une alliance entre les Six Duchés et les îles d'Outre-mer, tout ce travail venait d'être réduit à néant par le vent des paroles d'une jeune fille impétueuse.
Ketriken ne pouvait tolérer que la qualité de son fils fût mise en doute. Quand Eliania regardait Devoir d'un œil sceptique, c'était le royaume des six duchés tout entier qu'elle considérait avec défiance. C'était inacceptable, non pour des raisons d'amour-propre maternel, mais parce qu'une telle attitude risquait d'amoindrir la valeur d'une alliance avec les six duchés. Je retins mon souffle en attendant de voir comment Ketriken allait rompre les négociations. Mon attention se trouvait à ce point concentrée sur les traits de la reine que je n'aperçus que du coin de l'œil, Imbre qui tenta discrètement, mais en vain, de saisir l'épaule du jeune prince quand Devoir se dressa d'un bond.
« Je relève votre défi !»
Sa voix retentit, jeune et forte. À l'encontre de toutes les règles du protocole, il quitta son fauteuil et alla se planter devant la Narcheska. On eût vraiment dit deux amoureux en train de se quereller. Son geste paraissait exclure la reine, comme si elle n'avait pas à intervenir dans l'affaire. « Je le relève, non pour démontrer que je suis digne de votre main, Narcheska, non pour prouver je ne sais quoi sur moi-même, ni à vous, ni à quiconque, mais parce que je refuse que les négociations que nous avons menées pour aboutir à la paix entre nos deux peuples soient mises en péril par les doutes qu'une enfant à la fierté trop chatouilleuse entretient à mon sujet. » Elle répondit, blessée dans son orgueil.
« Peu m'importe vos raisons, »
dit-elle. Toute sa netteté de prononciation et d'élocution soudain retrouvées, du moment que la tâche est accomplie.
« Et quelle est-elle » demanda-t-il sèchement.
« Prince Devoir, » fit la reine.
Tout fils aurait reconnu ce ton. En l'appelant ainsi, elle lui commandait de se taire et de reculer. Mais il ne parut même pas l'entendre. Son attention était fixée sur la jeune fille qui l'avait humiliée, puis avait rejeté ses offres d'excuses. Eliania prit une grande inspiration, et quand elle répondit, ce fut avec le débit égal d'un discours appris par cœur. Pareil à un coursier qui sent tout à coup un terrain solide sous ses pattes, elle bondit en avant.
« Vous connaissez mal nos runes du dieu, prince, et moins encore nos légendes, car beaucoup vous diront que le dragon Glafeu n'est qu'une fable, mais je vous assure qu'il existe bel et bien. Il est aussi réel que l'étaient ceux de vos six duchés quand ils sont passés au-dessus de nos villages, en dépouillant ceux qui vivaient là de leurs souvenirs et de leur esprit. »
Ces propos, emplis de rancœur, ne pouvaient réveiller que des images empreintes de colère chez les auditeurs des six duchés. Comment osait-elle se plaindre du sort que nos dragons avaient infligé aux siens, alors que son peuple nous y avait poussé par des années de guerre et de forgisation? Elle s'avançait sur un chemin extrêmement périlleux, et les ténèbres affleuraient dans ses pas. Seul, je crois, l'aspect purement théâtral de la situation la sauva. Tous l'auraient sûrement conspué s'ils n'avaient ardemment désiré en apprendre davantage sur ce Glafeu. Même les marchands de Terrilleville paraissaient suspendus à ses lèvres.
Notre légende dit que Glafeu, le dragon noir des runes du dieu, gît profondément endormi au cœur d'un glacier, sur l'île d'Aslevial. Il dort d'un sommeil magique qui préserve les flammes de sa vie, en attendant qu'il se réveille en réponse à quelque urgent appel du peuple des runes du dieu. Alors, il brisera sa gangue de glace pour se porter à notre secours. »
Elle se tut et parcourut lentement la salle des yeux avant d'ajouter d'un ton froid et dépourvu d'émotion.
« N'aurait-il pas dû nous aider quand vos dragons nous ont survolés? Nous avions pourtant un besoin pressant de lui. Mais notre héros n'est pas venu. Et pour cela, comme tout héros qui désobéit à son devoir, il mérite la mort. »
Elle se retourna vers le prince.
« Apportez-moi la tête de Glafeu. Alors je saurai que, contrairement à lui, vous êtes preux et honorable. Je vous épouserai et serai votre femme sans réserve, même si vous ne devenez jamais roi des six duchés. »
Je pressentis la réaction instinctive de Devoir et intervint.
« Non »
fis-je d'un ton de commandement, et pour la première fois depuis que j'avais imprimé dans son esprit l'ordre de ne pas me résister, j'espérais de tout mon cœur qu'il fût demeuré gravé en lui. Il était toujours là. Je sentis Devoir heurter l'obstacle comme un lapin qui découvre la longueur d'un collet, puis se débattre pour s'opposer à la contrainte suffocante de mon ordre. Mais à la différence d'un lapin, malgré son effroi et son indignation,
il prit le temps d'examiner le nœud coulant. Puis, vif comme la pensée, il leva la tête et je le sentis suivre, comme du bout du doigt, la corde qui menait jusqu'à moi. Il la trancha. Ce ne fut pas facile. À l'instant où il rompit le contact avec moi, je perçus la transpiration qui l'inonda soudain. Pour ma part, j'eus l'impression qu'on me cognait violemment le front sur une enclume. Le choc me laissa assommé à demi, mais je n'eus pas le temps de m'occuper de ma douleur, car je m'aperçus alors que je voyais à travers la dentelle qui dissimulait ses traits la lueur bleutée des yeux du marchand voilé, et que son regard était tourné non vers le prince, mais vers le trou derrière lequel je me cachais. Que n'aurais-je donné pour apercevoir son expression en cet instant? Tout en formant le vœu fervent qu'il ne s'agit que d'un hasard, j'avais envie de me faire tout petit, de fermer les yeux et de rester ainsi tapis jusqu'à ce que son regard me quittait. Mais c'était impossible. J'avais un devoir à remplir, non seulement en tant que loin-voyant, mais aussi en tant qu'espion d'Imbre. Je continuais donc à observer la salle. La migraine martelait mes tempes, et Selden Vestrit persistait à regarder le mur censé me cacher. Et puis, « devoir », répondit à Eliania. D'une voix tonnante, la voix de vérité, une voix d'homme, il dit « j'accepte le défi ». Tout s'était déroulé trop vite. J'entendis Ketriken étouffer un hoquet de saisissement. Elle n'avait pas eu le temps d'imaginer, et encore moins de formuler, une phrase de refus. Un silence abasourdi suivit la déclaration du prince. Des Outriliens, dont Harkon s'engrippait, échangèrent des regards effrayés à la perspective de voir un prince des six duchés tuer leur dragon. À la table des ducs et duchesses, on pensait manifestement que rien n'obligeait Devoir à relever ce défi étranger. Je vis Imbre prendre une mine accablée. Pourtant, un instant plus tard, le vieil homme ouvrit grand les yeux et l'espoir y renaquit. Des acclamations avaient brusquement éclaté du côté des ducs, certes, mais aussi chez les Outriliens. L'enthousiasme, soulevé par un jeune homme mugissant comme un taureau qu'il tenait la gageure, submergeait toute trace de bon sens chez les personnes présentes, et j'éprouvais moi-même un élan de fierté pour ce jeune prince loin-voyant. À bon droit, il aurait pu refuser le défi sans y perdre une parcelle de son honneur. Mais non, il s'était dressé pour contredire la présomption insultante des Outriliens qui ne le pensaient pas digne de leur Narcheska. Je soupçonnais d'ailleurs qu'à leur table, on pariait déjà sur son échec. Cependant, même s'il ne réussissait pas dans son entreprise, sa promptitude à relever le gant que lui avait jeté Eliania lui valait déjà un respect accru de leur part. Peut-être ne donnait-il pas leur Narcheska à un prince fermier, finalement. Peut-être avait-il un peu de sang dans les veines. C'est alors seulement que je remarquai l'expression atterrée, voire horrifiée, des marchands de Terrilville. L'adolescent voilé avait détourné les yeux du mur qui me dissimulait. Avec force gesticulation, Selden Vestrit s'adressait à ses compagnons de table en essayant de se faire entendre par-dessus le vacarme qui emplissait la grande salle. J'entrevis Astérie Chandoiseau. Elle avait sauté sur une table, et la tête pivotant comme une girouette dans la tourmente, elle s'efforçait d'enregistrer la scène sous toutes ses coutures, de repérer toutes les réactions et de capter tous les commentaires. Il y aurait une ballade à écrire sur cet épisode, et elle en serait l'auteur. « Ce n'est pas tout !» cria le prince de voir dans le tumulte, et le pli de ses yeux me laissa craindre le pire. « Aida par pitié » fis-je, tout en sachant que nul dieu ni déesse ne l'arrêterait. Son regard avait une expression à la fois exaltée et butée, et bien qu'ignorant ce qu'il allait dire, je le redoutais à l'avance. Le tohu-bohu s'était tu soudain, et il s'adressa à la Narcheska plusieurs tons plus bas. Néanmoins, sa voix resta clairement audible dans le silence suffocant de la grande salle. « J'ai moi aussi un défi à lancer. Si je dois prouver que je suis digne d'épouser la Narcheska Eliania, qui n'a nul espoir de devenir reine d'aucun royaume, sauf en m'accordant sa main, j'estime qu'elle doit tout d'abord démontrer qu'elle mérite d'accéder au statut de souveraine des six duchés. » Ce fut au tour de Péotre de sursauter, puis de blêmir, car le prince avait à peine achevé de parler qu'Eliania répliqua. « Eh bien, lancez-le-moi ce défi !»
N'ayez crainte. »
Le prince inspira profondément. Les deux jeunes gens ne se quittaient pas des yeux et ne prêtaient nulle attention à l'assistance. Ils auraient aussi bien pu se trouver seuls en plein désert. Le regard qu'ils échangeaient n'était pas fixe, mais vivant, comme s'ils se voyaient pour la première fois à l'occasion de cette épreuve de volonté.
« Mon père, comme vous le savez peut-être, était seulement roi servant quand il a entrepris sa quête pour sauver les six duchés. Sans guère d'autre guide que son courage, il s'est engagé dans la recherche des anciens, afin qu'ils viennent à notre secours et mettent un terme à la guerre que votre peuple nous imposait. »
Il s'interrompit comme pour s'assurer, du moins fût-ce mon impression, que ses paroles avaient porté. Eliania garda un silence glacial et continua de l'observer d'un air farouche. Il reprit brusquement.
Les mois s'écoulant sans qu'on reçût la moindre nouvelle de lui, ma mère, devenue entre-temps reine des six duchés, reine cernée par les ennemis, mais légitime, ma mère est partie sur ses traces. Avec une poignée de compagnons, elle a cherché mon père, l'a retrouvé, puis aidé à réveiller les dragons des six duchés.
À nouveau une pause, et à nouveau, Eliania se tut. Il me semble naturel que, de la même façon qu'elle a prouvé sa valeur en se joignant à la quête de mon père pour réveiller les dragons, vous jouiez un rôle semblable dans la mienne pour tuer le dragon de votre pays. Accompagnez-moi, Narcheska Eliania, partagez mes épreuves, et soyez témoin du haut fait que vous me demandez d'accomplir. Et s'il se révèle qu'il n'y a pas de dragon à tuer, soyez-en témoin également.
Devoir pivota soudain vers les spectateurs et s'écria.
« Que nul ici ne puisse dire que c'est par la seule volonté des six duchés que Glafeu aura péri. Que votre Narcheska qui a ordonné cette exécution y assiste de bout en bout. »
Il se retourna vers la jeune fille et il ajouta dans un murmure suave. « Si elle l'ose. » Elle retroussa les lèvres d'un air dédaigneux.
J'ose.
Si elle en avait dit davantage, nul ne l'aurait entendu, car la salle s'emplit soudain d'un effrayant tumulte. Péotre restait figé, aussi pâle et immobile que s'il s'était changé en statue de glace. Mais tous les autres outriliens, y compris le père d'Eliania, martelaient leur table à coups de poing. De leur groupe s'éleva tout à coup un chant rythmique dans leur langue, empreint d'une détermination et d'une soif de sang qui aurait mieux convenu au banc de nage d'un navire pirate qu'à des négociateurs de paix en terre étrangère. Les seigneurs et dames des six duchés hurlaient pour se faire entendre, et leur avis paraissait aller du soutien au prince, dont la Narcheska avait bien mérité le défi méprisant, à l'admiration pour la jeune outrilienne qui avait réagi avec courage et dissimulait peut-être au fond d'elle une souveraine de valeur. Au milieu de cette tempête, les épaules droites, ma reine ne bougeait pas et contemplait son fils. Je vis Imbre lui glisser quelques mots, et elle soupira. Je pensais savoir ce qu'il lui avait murmuré. Il était trop tard pour revenir en arrière. Les six duchés devaient suivre l'attaque lancée par devoir. Non loin d'eux, sur le côté, Péotre s'efforçait tant bien que mal de dissimuler sa consternation, tandis que devant eux, le prince et la Narcheska se défiait toujours du regard. La reine prit la parole sans hausser le ton, dans le seul but de faire cesser le vacarme qui régnait dans la salle.
« Mes hôtes, mes seigneurs et mes dames, écoutez-moi, je vous prie. »
Le tumulte s'éteignit peu à peu, et on n'entendit plus que le tambourinement des outriliens, qui se calma lui aussi et s'arrêta enfin. Kétriken inspira profondément, et je vis une expression résolue affermir ses traits. Elle se tourna, non vers Archon Sangrépé et les siens, mais du côté où elle savait désormais que résidait le véritable pouvoir. Regardant la Narcheska, elle s'adressa en réalité à Péotre Onde Noire.
« Nous sommes à présent parvenus, je pense, à un accord. De ce jour, le prince Devoir est fiancé à la Narcheska et Liania Onde Noire des runes du dieu sous condition que le prince Devoir lui rapporte la tête du dragon noir Glafeu
et que la Narcheska Eliania l'accompagne afin d'être témoin de l'accomplissement de sa tâche.
« Qu'il en soit ainsi !»
rugit Harkon sans grépé, sans se rendre compte que la décision avait été prise sans qu'il eût son mot à dire. Piotr hocha la tête, grave et silencieux. La Narcheska Eliania se retourna vers Marraine, le menton levé.
« Qu'il en soit ainsi !»
répéta-t'elle d'une voix posée, et la cause fut entendue. « Qu'on apporte le vin et les plats !» commanda brusquement la reine. Ce n'était pas du tout ainsi que l'étiquette prévoyait qu'on ouvrit le banquet, mais Ketriken éprouvait sans doute le besoin de s'asseoir et de se revigorer d'un verre de vin. Moi-même, je tremblais moins à cause de la crainte que m'inspirait l'avenir que de la migraine tonnante que devoir avait déclenchée dans ma tête en se coupant de mon emprise. Sur un signe d'Imbre, les ménestrels se mirent à jouer tandis que les domestiques envahirent la salle. Chacun reprit sa place, y compris Astéri qui descendit gracieusement de sa table et fut accueilli par les bras de son époux. Emporté par l'atmosphère exaltée qui régnait dans la salle, il la fit tournoyer un instant avant de la poser à terre. Apparemment, leur dispute était oubliée. Comme s'il avait perçu mon questionnement sur la façon dont il s'était libéré de mon ordre d'art, le prince investit tout à coup mon esprit.
« Tamblero, vous devrez répondre de ce que vous m'avez fait. »
Et il disparut aussitôt. Quand tâtonnant je cherchais à le contacter, je me heurtais à une porte close. Je le sentais présent, mais j'étais incapable de trouver une prise pour ouvrir son art au mien. Je poussai un grand soupir. Cela n'annonçait rien de bon. Il m'en voulait, et la confiance qui s'était instaurée entre nous avait sans doute été gravement écornée. Mon enseignement n'allait pas s'en voir facilité. Je resserrai ma couverture autour de mes épaules. Dans la salle, les marchands de Terrilleville, seuls de tous les convives, faisaient preuve de discrétion, s'entretenant à mi-voix entre eux, ce qui ne les empêchait pas de profiter copieusement du banquet, à part celle d'Envestrit, immobile sur son siège, apparemment plongé dans de profondes réflexions. Son assiette et son verre restaient vides et son regard semblait perdu dans le vague. En revanche, aux autres tables, les invités bavardaient avec animation et dévoraient avec autant d'appétit que des hommes d'armes de retour du combat. Une exaltation presque palpable imprégnait l'air ainsi qu'une impression de triomphe. On y était enfin arrivé. Pour l'instant du moins, une entente ferme liait les six duchés et les îles d'outre-mer. On le devait à la reine, certes, mais aussi au prince, et les regards qu'on lui adressait paraissaient plus élogieux qu'auparavant. À l'évidence, le jeune homme avait prouvé qu'il avait du caractère, tant à ses seigneurs et nobles dames qu'aux outriliens. Peu à peu, le dîner se mit en route. Un ménestrel entama un morceau entraînant, et les conversations tombèrent tandis que les convives s'intéressaient sérieusement au repas. J'ouvris la bouteille de vin dont je m'étais muni, puis, de ma serviette, qui m'avait servi de baluchon, je tirai du pain, de la viande et du fromage. Le furet apparut alors comme par magie près de moi et posa ses petites pattes de devant sur mon genou. Je lui coupai un morceau de viande. Dans la salle, quelqu'un cria.
« Je lève mon verre au prince et à la Narcheska !»
Une grande ovation accueillit ces mots. Je levai ma bouteille avec un sourire sans joie et bu au goulot. Vous venez d'écouter Les secrets de Castelserre. L'assassin royal, tome 9, de Robin Hobb, traduit par Arnaud Mounier-Lompré, lu par Sylvain Agaès.